Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés d'Adil Farkan, comme à son habitude, tous les soirs, 19h, 20h, voilà, les informés avec toute son équipe. Mais ce soir, on est en live jusqu'à 21h, c'est l'avant-match en ce jeudi 19 mai 2022. Et au menu de cette émission, on parlera de quoi ? De l'argent dans le sport et plus précisément aussi dans le football. Les hooligans dans les stades, malheureusement, aïe aïe aïe. On va en parler ça longuement avec nos invités ce soir et les respects des valeurs qui se perdent. Quelquefois avec la direction du club, les supporters, les parents, les arbitres. On va revenir, ça c'est promis, rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM. Ce soir, nous accueillerons pour la première fois dans cette émission Jean-Pierre Colombiès, porte-parole de l'association de police UPNI. C'est bien ça, et sans oublier aussi un deuxième invité, voilà. On vous met bien ce soir les auditeurs de Beurre FM et les auditrices aussi avec Rachid Chelbi. Sans oublier, elle est un troisième invité. Eh oui, Rachid Chelbi, arbitre et auteur de Amor l'arbitre. Voilà, aux éditions Jacques Flamand. On aura aussi Stéphane Le Personnic, arbitre D1 du district dans le département de l'Essonne, dans les 91. Vous n'oubliez pas de réagir avec le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Yanis se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne avec toute l'équipe de Timesport. Et nous, on va commencer ce JT avec Jason, notre rédacteur. Et c'est parti.
Timesport. Le JT du jeudi par une triste nouvelle avec le décès de Faouzi Mansouri, l'ancien international algérien âgé de 66 ans qui s'est éteint des suites d'une longue maladie. Jeudi dernier, il avait notamment disputé les mondiaux 82 et 86 avec les Fenech. Une grosse pensée à sa famille et tout son entourage. En France, la liste de Didier Deschamps a été dévoilée en marge des rencontres de la Ligue des Nations prévue en juin prochain et la surprise se nomme Boubacar Camara ce jeudi qui remplace numériquement Paul Pogba blessé au milieu de terrain. Double surprise puisque le Marseille était annoncé également très proche de l'équipe du Sénégal, mais c'est finalement avec les Bleus qu'il devrait débuter sa carrière internationale en équipe A. Un autre joueur va lui stopper sa carrière internationale, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a annoncé hier officiellement son retrait des Panthères à l'âge de 32 ans seulement, après plusieurs polémiques survenues notamment lors de la dernière CAN. L'attaquant du Barça se dit quand même fier et honoré d'avoir tout donné pour sa sélection avec laquelle il aura connu 73 caps pour 30 buts et 10 passes décisives. On termine avec un début de polémique à Roland-Garros. L'Espagnol Zapata Mirales et l'Israélien Dudi Sela sont soupçonnés de matchs truqués. Une source policière a confirmé au journal L'Équipe s'interroger sur cette opposition qui a eu lieu lundi avec une large victoire facile en 2-7 de l'Ibérique qui aurait fait l'objet d'un nombre élevé de paris sportifs. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Timesport.
Et voilà, ce soir, on sera en compagnie de Yanis, de Yacine. Yanis, il est là, il a la réalisation. C'est Yacine. Sans oublier le coach Tolé. Comment ça va, le coach ?
Ça va très bien. Impeccable. Ouais. Ravi
tranquillement.
D'être ici.
Eh ben nous aussi, toujours. Le coach Tolé, de t'avoir avec nous ce soir sur cette antenne qui est Beurre FM, la radio de la diversité. Et tout comme nos trois invités ce soir.
On est gâtés ce soir.
On est vraiment gâtés. On l'espère en tout cas pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. On va commencer par Monsieur Colombiès. Comment ça va, Jean-Pierre Colombiès, avec nous pour la première fois dans cette émission qui est Timesport.
Bonsoir Bilal, pour la première fois dans cette émission, mais pas la première fois sur Beurre FM.
Non, c'est vrai.
C'est toujours un plaisir de venir débattre.
Et nous aussi, de l'entendre aux côtés d'Adil Farkan, les informés, 19h, 20h. Allez, lui, c'est la première fois que nous l'avions avec nous sur ce plateau. C'est Stéphane Le Personnic. Comment ça va, Stéphane ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup.
Pas stressé là,
on
est bien.
Non, du tout. On a eu un petit coup d'essai chez des collègues la semaine dernière, donc tout va bien.
C'est nos confrères d'RTL à qui nous passons le bonsoir. Et sans oublier, c'est Chebli, Monsieur Chebli. Eh oui, Rachid, avec nous. Comment ça va, arbitre ?
Ça va très bien. Merci.
Vous allez bien ? Et merci d'être avec nous ce soir sur ce magnifique plateau, Monsieur Chebli. On le rappelle, ce magnifique livre, Amor l'arbitre, chronique d'un arbitre du dimanche. Eh oui, aux éditions Jacques Flamand.
Oui.
Justement. Comment va le sport aujourd'hui ? Comment va le football ? On approche. Hier, on a vu le sacre des Allemands de Francfort. C'est bien ça, de l'Eintracht. C'est ça, hein, Yacine ? Hein, vous voyez ? Ouais. Hier, on s'est moqué, en fait. On a prononcé. Voilà. Allemand, c'est Denis qui me le demandait. C'est l'auditeur Denis. Eh oui.
Moi, quand je vois Yacine, ça me, il me fait penser toujours à l'Allemagne. Non, à la RFA.
RFA.
86, 70, 74.
Je suis désolé, mais moi, je les ai vus jouer en vrai.
Il était en 82, Jean-Pierre, en Espagne.
Je l'ai vu en direct.
Ah bah voilà, match, voilà.
C'est fou de rage,
ouais.
Bien sûr.
C'est ça.
Quelle escroquerie ce match.
Tu vois, Yacine, il y a eu un autre. En 82, il y en a eu de l'escroquerie, selon certains.
Aujourd'hui, le gardien allemand. Schumacher aurait
carton
été
rouge,
ouais, il était chaud quand même, Schumacher.
Expulsé carton rouge, certes.
Il avait bu trop de jus d'orange.
Après la victoire entre les mains.
Trop de jus d'orange, il avait bu trop de jus d'orange à la mi-temps, je crois. Le gardien.
Ouais, on peut dire ça. C'était le meilleur gardien du monde à l'époque.
Il le dit lui-même, en tout cas. Il se souvenait même pas de.
Il était à la mescaline. Par contre, ça, c'est un peu.
D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur l'arbitre aussi.
C'est l'arbitre qu'il faut accuser. Après, les arbitres à l'époque.
Je crois qu'il est un peu autrichien du reste de mémoire.
Les accusations fusent de partout.
C'est le match, il est resté là.
C'est marrant parce qu'en fonction des époques, c'est vrai que 82, moi je l'ai découvert lors des cassettes VHS, etc. Et moi, de ma génération, vu que voilà, je vais avoir 40 ans, c'est le France-Bulgarie, moi, 93, qui reste pour moi. Pour moi, ça reste. Ah ouais, c'est
avec
le plus gros.
C'est la plus grosse
déception que j'ai eue en football, en termes d'émotion.
Avec la meilleure équipe de tous les temps.
Selon toi,
c'est la meilleure équipe de tous les temps.
Elle était deux fois champion du monde.
Mis à part, peut-être. Bah oui,
mais après l'Euro 2020.
S'il n'y avait pas cette faute d'arbitrage en 82, je pense qu'ils auraient été champions du monde.
Possible.
Je pense que avoir un milieu royal.
Quand on mène 3-0, on joue plus normalement. C'est surtout ça.
Mais exactement, ils auraient dû faire
le jeu. Je pense que le Brésil 70 était au-dessus quand même. Le Brésil 70.
L'Argentine 86 aussi.
Et le Brésil, ce n'est pas la meilleure équipe du Brésil, ce n'est pas l'équipe de 70.
Ouais.
Ça, c'est ton point de vue.
C'est qu'ensuite.
Ah, non, du tout. Du tout. C'était la meilleure équipe du Brésil, c'était l'équipe de 82 aussi.
Ah, 82.
Ah, oui,
selon Yacine.
Ouais. Sur la qualité de jeu, je pense que le Brésil, même, ils se sont fait sortir par la France d'ailleurs.
Ouais. C'était une autre époque, tout cas. Nouvelle époque, Monsieur Colombien, aussi avec Monsieur le Personnique et Monsieur Chébli.
Il n'y avait pas Madame Lavard.
Ouais. Ah ben justement, peut-être on va en reparler avec les arbitres de Madame Lavard, comme tu dis. Kylian Mbappé qui aime la France plus que l'argent. Eh oui, cet argent, il y en a beaucoup aujourd'hui, Monsieur Colombien. Non vraiment. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. On paye trop nos joueurs, peut-être aujourd'hui. Il y a trop de sommes astronomiques. Ouais.
C'est pas d'aujourd'hui, non. Je sais pas.
Est-ce que ça handicape le football, la planète sport?
Ça la détruit. Bien sûr.
Ouais. Selon vous?
Ça pourrait l'être humain. Hein.
Ouais. Oui, tout à fait. Oui, globalement.
Les valeurs, quoi.
L'argent pourrit tout, bien sûr.
Ouais. Monsieur Chébli, justement, en tant qu'arbitre, de voir quand même ces sommes.
Alors,
pharaonique, quoi.
Il y a deux footballs de mon point de vue. Il y a le football professionnel. Et très sincèrement, je ne m'inquiète pas pour le football professionnel parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, justement,
qu'ils
finiront bien par trouver des solutions. Donc, ce n'est pas ça qui m'inquiète, moi. Ce qui m'inquiète, c'est notre football à nous, Stéphane et moi.
Football
district, exactement. Nous, on est vraiment tout en bas, vous voyez. Et donc, c'est notre fierté aussi. Et c'est ça qui nous inquiète véritablement parce que nous, on ne court pas après l'argent. On court juste après le plaisir.
Ouais.
Et aujourd'hui, on vit dans une époque où le plaisir, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que, on met l'accent. On met l'accent beaucoup sur l'argent. Et on le voit aujourd'hui, comment le football a évolué.
Ouais.
C'est-à-dire que avant, on disait souvent, c'est un joueur qui mouille le maillot. Aujourd'hui, le maillot, il n'a pas beaucoup d'importance. Hein. On voit sur une saison, d'une saison à l'autre, on prête des joueurs ici, ils s'en vont là. Vous voyez, on parle souvent, alors je le dis... C'est comme ça, malheureusement. On parle beaucoup de mercenaires, de joueurs mercenaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils courent après l'argent, malheureusement, c'est comme ça. Mais nous, à notre niveau, c'est pas du tout ça. Et donc.
Justement. Ouais. Au niveau amateur, au niveau. Monsieur Colombias, allez-y. Pierre.
C'est tout à fait vrai.
D'accord avec Monsieur Chablis.
Mais oui, il n'y a plus d'esprit de chapelle, tout simplement.
Ouais.
Faut pas oublier que Messi est devenu Messi parce qu'il a joué toute sa carrière à Barcelone.
Ouais.
En fait, c'était une famille pour lui, hein. C'était un esprit.
Ouais.
Et à mon avis, il avait une autre motivation qui n'était pas seulement financière, c'est que
il
avait des comptes à rendre aux aficionados. Ouais. Et que, voilà. On retrouvait, parce que ça n'existe pas trop en France, mais on retrouvait cet état d'esprit un petit peu à Marseille.
Ouais.
Où on avait des joueurs qui étaient du cru avec une pression des supporters très forte, pas simplement haineuse. Quand je dis pression, c'est pas une pression nécessairement méchante. Et c'est ce qui manque notamment, de mon point de vue, je parle sous le contrôle des spécialistes qui sont autour de cette table, c'est ce qui manque au PSG, clairement. Il n'y a pas cet esprit de clocher, cet amour du club et de son histoire. Et c'est pour ça que
c'était
dommage.
C'était le cas du Paris Saint-Germain des années 70.
Oui, mais là, on est en 2022. Et aujourd'hui, on recrute des Neymar, des Messi, des gens qui n'ont strictement rien à faire.
Leurs meilleurs joueurs qui sont formés chez eux, à l'image de Nkunku. Bah, il est parti du PSG pour 0.
Joueur allemand.
Il vient de finir meilleur joueur de la Bundesliga.
Oui, championnat allemand.
Avec des statistiques, mais incroyables.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment les directeurs sportifs qui l'ont fait partir.
Oui, au Paris Saint-Germain.
Ils se regardent dans une glace. Aujourd'hui, une Nkunku, c'est 80 millions d'euros.
Je pense que l'objectif numéro un, c'est la vente des maillots. Je vois un type comme Messi, bah, il va vendre je ne sais pas combien de centaines de millions.
C'est ce qui vient de se passer. Hein. Il a rapporté énormément d'argent au PSG.
Des perles formées en interne vont rapporter de la trésorerie pour faire autre chose. Enfin bon, c'est totalement perverti.
Ouais, c'est des modèles
complètement différents. Ouais, je pense que le PSG est peut-être champion d'Europe en termes de marketing. Hein.
Ouais, c'est pas mal le PSG en
marketing du monde. Hein.
Là, à ce niveau-là, il serait pas mal. Non, mais ça a été résumé. Enfin, ça a été résumé. Le football est malheureusement pourri par l'argent. Mais moi, j'ai une réflexion à me faire. C'est que c'est vrai qu'on dit souvent, il y a beaucoup d'argent dans le football, mais il y a aussi beaucoup d'argent dans le basket, beaucoup d'argent dans la Formule 1. Quelles sont les valeurs de ces sports? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on en parle moins que le football.
Ouais, mais
il n'y a pas
forcément. Il y a un sport qui sort.
Elle est d'accord, Stéphane Le Personnique. Ouais.
Le rugbyman se plaignait il y a encore quelques temps. Et petit à petit.
Il y a des petits problèmes là. Au rugby, mais ça, c'est super aussi.
Il y a beaucoup d'argent aussi dans le golf. Il y a beaucoup d'argent dans la MMA.
C'est individuel.
Oui, la MMA, il arrive à la rentrée en France.
Mais le problème d'argent.
Alors,
je vais pas dire mon âge parce que je vais.
Ouais, 36 ans. 36.
Voilà. Depuis que je me rappelle, c'était le même discours. Il y avait beaucoup d'argent dans le football. Alors que l'argent n'a fait que se multiplier. Voilà, ça veut dire qu'on n'a jamais trouvé la solution. À chaque fois qu'on met sur la table cette thèse d'argent, j'ai l'impression que l'argent est double. Voilà, donc peut-être que le monde.
C'est comment on l'utilise en fait l'argent. Alors, c'est pas une question parce que t'en as besoin en soi.
Mais
comment est utilisé l'argent?
On
écoute Jean-Pierre.
C'est un effet.
Et aussi Stéphane.
Pas que moi. Hein,
mais bien sûr, mais on écoute.
Non, mais c'est un effet induit pervers terrible. C'est-à-dire que ça génère tellement de la masse d'argent est telle que ça devient la course à l'échalote. Faut en gagner toujours plus. Et ça provoque quand même quelque chose de très dangereux, de mortel. C'est le dopage. On ne peut pas, de mon point de vue, dissocier argent et dopage. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le rugby. Parce que ça a un impact encore plus fort. On voit des jeunes de 25, 24 ans qui meurent d'accidents cardiaques.
Même dans le football aujourd'hui, gamins de 18, 19 ans.
Je parle du foot. Et donc, pour être ultra performant, parce qu'il faut tenir, eh ben on est obligé de soutenir la machine. Le corps humain ne peut pas dépasser certaines limites. Mais pour les dépasser, il faut utiliser des produits dopants.
Autre chose.
Et on le voit au niveau du foot.
Ouais.
Mais pas qu'au foot. Quand on voit des types,
regardez
des matchs des années 70, les types ils finissaient un match sur les chaussettes en bas.
Ouais.
Ils cherchaient l'oxygène, ils cherchaient l'air, ils cherchaient tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils font des tours d'honneur. Bon, il y a un truc qui ne colle pas. Et c'est dangereux sur des sports comme la boxe, le MMA, où les types sont ultra chargés, et le rugby, donc
le rugby,
parce que les gars sont obligés d'augmenter les masses musculaires pour tenir l'impact, parce que c'est devenu un sport de combat, de contact surtout.
Alors l'argent, Stéphane, l'argent est le dopage, mais l'argent en fait est le dopage, c'est la tricherie. Et en fait, ce qui va tuer notre sport, notre passion qui est le football, c'est effectivement cette démesure dans l'argent. Les coûts, en fait, ils font des coûts, ils ont fait un coup avec Beckham, ils ont récupéré beaucoup d'argent.
Ouais.
Et pour revenir aux propos que tenait tout à l'heure Rachid, en amateur aussi, il y a de l'argent. Il y a quelques semaines, il y avait un article qui est sorti dans l'équipe, qui justement demandait comment ça se passait à notre niveau.
Alors,
la mise en place d'arbitres, comment les clubs étaient en accord avec le statut de l'arbitrage. Et donc, il y avait effectivement certains témoignages sous couvert. Alors, moi, je sais que j'avais été approché par l'équipe. J'avais j'avais donné des indications, mais j'avais pas souhaité poursuivre.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, pour des clubs, il y a le statut de l'arbitrage à notre niveau, et c'est important justement que l'on revoie un petit peu ce principe-là, et pas le voir seulement sur le prisme de si vous n'avez pas vos arbitres, vous pouvez pas faire jouer vos équipes dans telle et telle et telle division, mais plutôt de le voir sur ayez des arbitres, voilà, formez-les, qu'ils aient un vrai rôle dans votre club, et là effectivement on passera sur une autre dimension.
Par exemple,
Stéphane Le Personnel, oui,
Yacine, ils forment les joueurs sur le plan de réglementation. Ça, déjà, un joueur qui connaît les lois du jeu, la réglementation, je pense qu'il va, quand il est hors jeu, il va savoir tout de suite qu'il est en position d'hors jeu. Il n'a pas besoin d'y aller courir tout le temps derrière l'arbitre. Quand il y a pénalty, il y a pénalty. Quand il y a coup franc, il y a coup franc.
Je pense que ça va au-delà. Je pense qu'il y a un problème, tout simplement. Pour moi, je suis sur les terrains encore avec les féminines. C'est différent, mais. C'est un train de, il y a des choses qui changent et j'aime pas trop ça. Je pense qu'il y a un problème d'état d'esprit, de comportement. J'ai le sentiment pour avoir même pratiqué des tournois amateurs à l'étranger et tout, ils ont pas ce comportement là que nous on a en France. C'est-à-dire que nous, comme tu dis, tout de suite, dès qu'il y a une décision, on court comme si c'était la fin du monde.
Il est d'accord,
catastrophique.
C'est chaud. Mais c'est chaud.
Contestation de décision.
Mais c'est chaud. Mais je te dis que c'est chaud pour voir l'arbitre. Il est là.
Parfois, on en a deux ce soir.
Parfois, c'est catastrophique, parfois, parce qu'il faut, surtout cette saison-là. Vous avez parlé tout à l'heure de.
Pour les gens qui regardent le championnat de France ou le football
mais
en France.
Mais pas que.
Mais dès qu'on part dans d'autres continents, et on se dit.
Mais France, c'est pas une bonne chose.
C'est un paradis.
Je suis pas. Ouais, mais
alors,
c'est
pas d'accord. On n'est pas d'accord.
Oui, oui.
Allez, alors, avec Rachid.
Regardez ce qui s'est passé, juste pour ouvrir une parenthèse.
Oui. Allez, vas-y.
C'est passé avec le match Algérie-Cameroun.
Ah là, on savait que j'allais parler d'Algérie-Cameroun, mais non, Yacine. À chaque fois, tu reviens.
C'est très important. Et la FIFA.
Allez, va rentrer en conflit contre Samuel Eto'o encore.
Avec tout ce qui s'est passé, l'Algérie a déposé un dossier en bonne et due forme, contestant toutes les décisions prises par l'arbitre Gassama. Qu'est-ce qu'elle fait la FIFA?
Alors,
normalement, il devait être suspendu à titre conservatoire tant que les choses ne se sont pas éclaircies.
Ils vont te répondre à la place de Gassama, les messieurs.
Non, mais c'est la vérité.
Il a
arbitré une demi-finale de Coupe d'Afrique entre un club libyen et un club angolais.
Alors.
Et ils l'ont fait encore des siennes. Il est contesté par tout le monde. Toutes ces décisions sont contestées. Et là, la FIFA aujourd'hui.
Pour moi, ça a été.
Elle publie la liste des 36 arbitres qui sont appelés à officier.
Pour le mondial 2022.
Pour le prochain mondial.
Ouais.
Il y est.
Bah, c'est qu'il est bon.
Femmes.
C'est qu'il est bon.
Il n'est pas bon du tout.
J'étais pas mal absent durant cette polémique.
Ah ben merci.
Et c'est même très bien. Franchement, on en a fait beaucoup trop. Moi, je pense qu'il y a un moment.
Non mais
on peut. Non mais on peut. On peut se plaindre.
Lui répond pas.
Sinon, à ce rythme-là, chaque équipe va protester.
Voilà, vous l'aurez compris. Monsieur Colombiès, Monsieur Le Personnic, bon encore Monsieur Chebli, comment flinguer un sujet. Voilà, Yacine, Monsieur Gassama et l'Algérie avec le Cameroun. On se retrouve rapidement après cette première pause. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 23 minutes, toujours en compagnie de Monsieur Colombiès, Jean-Pierre Colombiès, porte-parole de l'association de police LUPNI, c'est ça, l'UPNI, c'est bien ça.
C'est une association de policiers indépendants, non syndiqués, non politisés.
Voilà.
Parfaitement libre de parole et d'expression.
Voilà, comme il le fait sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, Stéphane Le Personnic avec nous, arbitre, on le rappelle, D1 du district de l'Essonne dans la région parisienne, et sans oublier Monsieur Rachid Chebli. Et oui, avec son magnifique livre à mort, l'arbitre, on va le faire emporter, ce magnifique livre aux éditions Jacques Flamand.
Eh ben avec plaisir. Avec plaisir.
C'est bien ça. Mmh. On a parlé de l'argent dans le sport, plutôt dans le football. On a Fouad aussi qui nous appelle depuis la région parisienne. On n'oublie pas Fouad, on va le faire réagir. On va s'attarder à la violence dans les stades.
Time Sport. The Special One, The Special One.
On est assez sympa sur l'antenne de Beurre FM. On fait remporter pas mal de livres, Eh oui, entre 20h et 21h chaque soir, tu vois, Yacine. On remplit les bibliothèques de toutes les maisons, c'est ça.
Après, il faut les lire, aussi.
Ouais,
hein.
Faut les lire. On
c'est bien de les lire.
Lecteurs, oui. Il faut. Merci de le rappeler.
Le livre de Amor, je pense que.
On va le faire remporter. Eh oui.
C'est de monsieur. Alors, oui, je précise que je l'ai écrit pour les footeux, bien évidemment, mais vraiment, vraiment, je l'ai écrit aussi pour les gens qui regardent le foot et qui vivent le foot d'un peu loin.
Bien sûr.
Et également ceux qui aiment la littérature, qui aiment simplement lire. Et oui, donc, du coup, voilà, il y a trois volets qui sont intéressants.
On en a pas mal sur l'antenne de Beurre FM, Rachid. Football, violence et racisme, amateur ou professionnel, de pire en pire. Et c'était le débat du jour. Vous pouvez réagir tout comme Fouad au 0153483000. Il en a vécu, et oui, de la violence malheureusement, et aussi du racisme à travers les stades en France, monsieur Colombiès, de pire en pire.
Oui, de pire en pire, mais je crois que c'est à l'image tout simplement de l'évolution de la société, hein, qui est de plus en plus individualiste, un peu plus violente. Et je crois que pour en venir, pour recentrer le sujet sur le foot, ceux qui sont ou hooligans ou racistes ou ultra-violents n'aiment tout simplement ni le foot ni le sport. En faisant ce à quoi on assiste dans les stades partout en France et ailleurs, on se rend bien compte qu'ils n'aiment pas les gens qu'ils sont supposés venir soutenir, puisque de fait, mécaniquement, ça attire déjà, dans un premier temps, des sanctions contre leur propre club. Mais fondamentalement, c'est des gens qui ne vivent pas pour le sport. Ils vivent pour la confrontation, on l'a évoqué un petit peu en off.
Ouais.
Un stade de foot, c'est une photographie d'une société à un moment donné. Hein. Donc ces gens-là sont l'expression de la société, de l'évolution de la société qui aujourd'hui est ultra-individualiste, ultra-violente.
Et le Covid qui est passé par là aussi, peut-être Non, le Covid. Non, vraiment. On disait, peut-être avec ces confinements, les gens voulaient sortir, les gens voulaient...
C'est faux.
Mais
non, souvenez-vous. Ouais. Non, mais il faut se souvenir du hooliganisme des années 90. Enfin, le
Et
j'en passais des meilleurs. Les stades d'anglais qui brûlaient avec des morts... Non.
Le SL également, le SL.
Les années 80, oui. 84.
Non, ça a toujours... Enfin, c'est pas que ça a toujours existé. Si, ça a toujours existé. La seule manière, il y a des... Par contre, il ne faut pas être naïf.
Ouais.
Quand on est confronté à des phénomènes comme celui-là, il faut prendre les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire qu'il faut des sanctions. Il ne faut pas rigoler avec les sanctions. C'est-à-dire qu'il y a des types qui sont des hooligans dans les stades, on casse. Ouais. Le type, il est interdit à vivre.
Sanctions minimes, peut-être.
On les voit. Mais c'est quoi Oui, mais c'est quoi?
C'est pas juste. Il y avait quoi? Il n'y avait même pas de retrait de points. C'était plutôt des petites amendes.
Moi, je me souviens quand le PSG, on évoquait les problématiques de hooligans entre, à l'époque, supporters marseillais, parisiens et autres.
À cette époque-là,
c'est pas les plus violents, du reste, hein, parce qu'il y a aussi des supporters de Saint-Etienne qui sont pas mal non plus.
Oui, les Stéphanois.
Voilà, bon. Les types allaient pointer au commissaire. Au lieu d'aller voir le stade de foot,
juste une question.
Alors, Yacine.
Est-ce que au niveau de la police, vous avez un classement des supporters ou des hooligans les plus virulents
Bien sûr,
France?
Non, mais bien sûr, mais ils sont connus, identifiés. Après, une fois qu'on a fait ça, c'est à la justice aussi de prendre le relais, aux instances footballistiques aussi, de transmettre des informations pour que des sanctions soient prises.
Et le club aussi, ils sont responsables.
Ils sont responsables.
Souvent, ils sont de mèche avec eux.
On a Rachid.
Justement, puisqu'on parle de sanctions.
Stéphane aussi.
Alors, vous avez parlé des hooligans, les hooligans
dans
les années 80 en Angleterre. Quand les Anglais ont voulu se débarrasser du hooliganisme, ils ont pris le taureau par les cornes.
Ils ont mis des moyens.
Donc il y a eu des sanctions, il y a des gars qui se sont retrouvés en prison, il y a même des gars qui allaient pointer le jour de match. Donc ça veut dire de cette manière-là qu'on s'en est débarrassé. Mais aujourd'hui,
on tergiverse.
Gars qui s'en prend à un arbitre, parce que c'est ça qui nous a amené ici, un gars qui s'en prend à un arbitre, il n'y a pas à tergiverser.
Ouais.
Et donc, alors la question se pose, avis ou pas avis, il y a un collègue qui s'est fait frapper à Salouel, du côté de Damien, il n'y a pas très longtemps.
Rien que ce dimanche.
Il l'a ouvert.
Damien,
il a ouvert
ce soir. Théo Boucher.
Exactement.
Théo, 17 ans.
On le salue. Un jeune qui s'est retrouvé tout seul, et le gars qui l'a frappé, il l'a ouvert à la tête. Bon, il a pris, le gars a pris 24 ans. Alors on dit oui, mais 24 ans, oh là là, c'est beaucoup, etc. Mais pour certains d'entre nous, 24 ans de suspension, d'interdiction de terrain.
D'accord.
Mais pour certains d'entre nous, c'est à vie.
Ouais.
Quelqu'un qui s'en prend un arbitre, de cette manière-là, c'est à vie.
C'est grave.
Je donne un exemple. D'un collègue.
Rachid.
Dans mon livre, je parle d'un collègue. Je vous assure que c'est vrai. C'est Jean-Yves Leroy, qui nous écoute en ce moment.
Il y a pas mal de personnes qui nous écoutent.
Lui, il a pris. Vous savez combien de points de suture il a eu dans la tête? 27 points de suture. Vous vous rendez compte? 27 points de suture.
Pour une partie de football.
Voilà. Pour un match, pour deux cartons jaunes. C'est même pas un rouge direct. C'est juste deux cartons. Et le gars est sorti. Il est sorti tranquillement, et quand mon collègue est arrivé au vestiaire, il était tout seul, il a ouvert le vestiaire et le gars lui a sauté dessus et il l'a tabassé.
On a Farid qui se réjouit de ce magnifique plateau ce soir avec vous, messieurs. Oui, vraiment. Monsieur Colombiès, monsieur Le Personnique et aussi monsieur Chebli. On a pas mal de réactions. On va essayer de prendre Fouad qui a composé le 0153483000 et qui aimerait réagir sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir Fouad, comment ça va? Oui. Alors, c'est Fouad, non. Là, on a pris Samuel. Allez, on va prendre Samuel. On va prendre Samuel.
Eto'o ?
Samuel, justement. Ah, Samuel Eto'o, non. Peut-être c'était mécontent des propos. Oui, des propos de Yacine. Non, c'est Samuel qui nous appelle depuis Le Havre. Bonsoir, Samuel.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Rachid.
Oui.
Bonsoir, Samuel.
Donc, moi, je connais un petit peu Rachid au niveau arbitrage. Donc, sur la scène maritime. Je sais qu'il est intransigeant au niveau de l'arbitrage. Il est très compétent. Je suis scolarisé par ce qui est arrivé lors du match 10-Rennes. Et moi, j'ai voulu savoir ce qu'aurait fait Rachid s'il avait pu arbitrer ce match. L'aurait-il arrêté?
Alors, allez, la réponse de notre invité, Rachid Sebli.
C'est vrai que c'était indigne, vraiment. Hein,
ouais.
Les propos des supporters. On se demande. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas des supporters. Pour moi, c'est un peu comme les gens qui sont violents. Mais d'une certaine manière, parce qu'on a comparé, on a fait une comparaison. Mais ça, c'est aussi violent que la violence physique.
Ah ouais.
Et donc, du coup, oui, moi, je me suis dit, j'arrête le match. Alors, évidemment, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'argent là-dedans. Et en plus, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vont se retrouver dans la rue? Évidemment, vous, policiers, vous vous dites non, monsieur l'arbitre, vous pouvez pas faire ça parce que c'est nous qui allons galérer après dans la rue, etc. etc. Et donc, je dis pas que c'est facile.
On explique aux autres qu'on a arrêté le match pour cette raison. Je pense que les gens, au lieu, ils vont être sensibilisés. On peut faire une paire de coups.
Oui, mais Yacine, on a dit tout à l'heure, à un moment, il faut arrêter quoi.
Oui,
le collègue dans l'heure, qui a entendu des propos racistes. Les propos racistes, par exemple, ou homophobes. Mais il n'y a pas à tergiverser. Ah ben. Le match, il doit être arrêté. Point final. Parce qu'il y a que comme ça qu'on va y arriver. Parce que toujours on tergiverse. Toujours on dit, oui, mais si on fait ça, voilà ce qui va arriver. Non,
propos racistes, homophobes, 15 mai,
on arrête le match. Point.
On a arrêté la partie après des propos racistes tenus par une spectatrice quand même. Oui, monsieur Colombien, c'est le personnage qu'on vous écoute. Alors, ouais, Stéphane, il a tant de choses à dire,
pour,
hein, je crois.
Pour revenir à la question, effectivement, je pense que toute personne sensée et un peu plus maintenant facilement dans le milieu amateur aurait arrêté ce match-là. Je reviens sur les propos, effectivement, ce qu'ils sont dit. Quand il y a de l'argent, quand il y a l'enjeu, tout ça et tout, quand il y a pas forcément la sortie du stade, c'est pas forcément une question de sortie du stade ou des choses comme ça. Je pense que tout à l'heure tu évoquais
tu évoquais le basket, le
rugby aussi, on est dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire que même si le speaker du stade prend le micro et dit voilà, désolé, le match est arrêté pour telle et telle et telle raison. Il y aura toujours des gens qui seront pénalisés. Donc là, dernièrement, et tant mieux, c'est les capots, le groupe des ultras de Niçois qui a été pénalisé. Mais en fait, au final, c'est tout le club, c'est toute l'image du club, c'est une ville aussi, puisque le maire, monsieur Estrosi, a dû lui aussi aller s'expliquer devant les médias pour dire moi, c'est pas ma ville, tout ça et tout. Donc ça prend de l'ampleur. Et pourtant, à chaque début de saison, que ce soit les arbitres amateurs ou les arbitres pros, on a des consignes. Et une des grandes consignes de cette saison, c'était pour toutes les contestations, maintenant vous allez être intransigeant. Merci. Ouais. Intransigeant, ça va être des cartons jaunes tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ça a duré 2 mois. Ça a duré 2 mois.
Et après
on a vu, pour prendre que lui, Verratti. Et voilà. Et puis les collègues du haut niveau qui ne sanctionnaient plus.
Il fallait vraiment.
On va revenir à Samuel rapidement.
C'est celui qui conteste le plus en Ligue 1. Mais je sais pas.
Ah ben.
Mais pourquoi il va partir? Il va parler avec l'arbitre. Tout le temps, il fait que ça.
Benzema l'a dit, il ne faut pas parler à l'arbitre.
C'est piètre prestation en allant parler avec l'arbitre. Quel exemple il peut donner à.
Ils font pas. Je crois qu'on va
terminer avec Samuel.
Les footballeurs français ne font peut-être pas assez de yoga. Même ça paraît peut-être les détendre. Avant les rencontres et tout. Enfin, non, mais je veux dire.
C'est vrai. Samuel, on termine avec Samuel qui nous a appelé depuis Le Havre. Voilà, on a répondu à vos questions, peut-être, Samuel, notre auditeur.
Oui, très bien. Et je voudrais quand même saluer Monsieur Chibli qui mène actuellement un combat dans sa propre commune. Le combat, c'est d'aider une école qui est menacée de fermeture, école qui abrite des enfants autistes et aveugles, et que la municipalité de sa ville veut fermer pour des raisons fallacieuses.
Ah ben bravo.
Donc Monsieur Rachid Chibli, respect.
Ouais, merci, respect. Samuel. Merci, respect à vous aussi, Samuel, de l'avoir mentionné comme
message,
ça, à l'antenne.
Message,
magnifique, Samuel. On va garder Samuel, en attente, on va essayer de l'envoyer aussi un magnifique livre à Samuel, parce que là, il le mérite. Oui, Monsieur Colombias, avant de retrouver Fouad.
Très,
vite et pour laisser le temps de parole à tout le monde d'ailleurs.
Mais bien sûr, ça parle bien.
Je crois que non, mais les agressions vis-à-vis des arbitres, là encore, ça rejoint un phénomène de société. On vit une époque, on est dans une période où tout ce qui de près ou de loin représente l'autorité est contesté.
Ouais.
Donc a fortiori l'arbitre, c'est le premier interlocuteur, le premier représentant de quelque autorité que ce soit. Le gros problème, c'est l'efficacité de la sanction et la perception de la sanction. C'est bien gentil de dire, ah oui, on va les punir, mais si c'est pas suivi des faits, à quoi ça sert? Ce qui a été cité sur la question est excellente, là, sur le fait d'arrêter ou pas le match. Peut-être que si on en arrête un, ça va faire un scandale, oui, peut-être, ouais. Sauf que ça va peut-être réfléchir sur tous les autres et se dire, oula, et les villes et les présidents d'ailleurs, parce qu'effectivement, les villes, les autorités politiques d'une ville sont très attachées au résultat d'un club de foot. Un club de foot, c'est pas rien dans une ville. C'est vraiment la respiration d'une ville. Donc si à chaque match, tu te prends une interdiction de stade, plus des sanctions après qui s'en suivent, ça va peut-être les calmer, ces braves gens. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça.
On peut frapper un arbitre, on peut l'insulter.
Malheureusement,
il ne se passe rien derrière.
On a Fouad, notre auditeur. Il a composé le 01 53 48 3000. Bonsoir, Fouad. Il a longtemps attendu, Fouad, pour discuter avec toute l'équipe de Tam Sport. On vous écoute, Fouad.
Bonjour à tous. Comment allez-vous?
Ça va très très bien, Fouad. Eh oui, ça parle et ça parle encore avec les invités et l'équipe.
Ah, tant mieux. On anime les débats, c'est bien.
C'est super. Alors.
Exactement.
La violence dans les stades, Fouad, justement, on en parlait.
Alors,
football amateur, pas que.
Pas que, malheureusement, depuis quelques temps, ça s'était très très bien calmé.
C'est vrai.
Malheureusement, ça repart et de plus belle. Moi, j'aimerais rebondir sur une chose, c'est que, pour revenir sur la comparaison avec le tennis ou le golf ou encore, par exemple, la Formule 1.
Ouais.
Le football, c'est le sport le plus populaire, donc forcément... Ça attire dans les stades, et pas que, aussi des acteurs, des personnes de tous les milieux, et en particulier des milieux populaires.
Ouais.
Et c'est pour ça que dans le tennis, le golf, ces autres sports, entre guillemets, des luttes, on n'a pas ces problèmes de violence. Et on n'a pas aussi, je rebondis sur le premier sujet, on n'a pas aussi ces problèmes d'argent.
Ouais,
l'argent ne fait pas tourner la tête parce qu'on a des protagonistes qui font une partie, qui ont un peu plus de facilité, on va dire. Et je rebondis encore une fois, le foot, c'est le sport le plus populaire, donc forcément. Dès qu'il y a un joueur qui vient d'un quartier, entre guillemets, qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui commence à avoir accès à certaines sommes d'argent, forcément, ça fait tourner les têtes. Heureusement, pas pour tous les joueurs, mais c'est une chose qu'on voit fréquemment.
Bien sûr. Fouad, on a deux réactions avec Monsieur Chemi et aussi le coach Tollé, peut-être. Allez, le coach Tollé.
Moi, je suis.
Il aime beaucoup les autres disciplines, Allez, Rachid, dis-moi.
Fouad, il y a quelque chose qui me choque même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est du milieu, quand on est issu d'un milieu populaire, on est plus violent que les autres? Que quand on est issu d'un autre milieu? Parce que vous avez dit, on est violent parce que le. Parce que le football draine des gens de milieux populaires.
De tous les milieux. Je dis que le football, forcément, c'est un sport populaire. Donc, on avait des gens de tous les milieux dans le football. Aussi bien parmi les protagonistes que parmi les supporters.
D'accord.
Donc, forcément, je ne dis pas que dans le tennis ou le golf ou la Formule 1 ou tous ces autres sports malheureusement, on a besoin d'un certain pécule pour y avoir accès. Parce que c'est pas tout le monde qui a un karting pour commencer à se préparer à la Formule 1. Je dis que juste parmi ces personnes-là, il y a moins de risques de violence que dans les tribunes des stades. Et aussi bien avec les arbitres. J'ai jamais vu un arbitre de golf ou un commissionnaire de Formule 1 s'en prendre plein la gueule. Excusez-moi l'expression.
Bien sûr. Merci Fouad pour cette réaction. On va devoir couper, c'est la dernière pause justement. Et on va essayer de revenir peut-être avec Fouad et avec la réponse du coach Tollé et de nos invités. Restez à l'écoute de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, ça parle encore, comme à son habitude, jusqu'à 21h. Il est 20h40 avec Yacine, le coach Tollé, Monsieur Colombiès avec nous, qu'on peut retrouver chaque soir quelques soirs durant la semaine avec Monsieur Adil Farkan. Et oui, 19h, 20h, c'est les informés. Et aussi avec Monsieur le personnage qui est Rachid Chedbli. Deux arbitres qui nous font le privilège de nous assister ce soir dans cette émission de Time Sport. Sport. On parlait avec des disciplines, des différentes disciplines avec le coach Etolé. On a eu la réaction de Fouad. Peut-être il aimerait répondre, le coach Etolé, à Fouad.
Par rapport à ce que nous a dit Fouad, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Maintenant, après, il parlait du sport populaire. Il disait que oui, le football, c'est un sport populaire. Donc, moi, c'est ce que j'ai entendu. Cela veut dire que lorsqu'on est amené à générer pas mal d'argent en venant peut-être d'un milieu social peut-être moins important, ça fait tourner la tête. Faut savoir qu'en Ligue 1, en Ligue 2, c'est pas souvent dit, mais c'est une réalité, il y a 70% de joueurs d'origine africaine, subsaharienne ou Afrique du Nord. En général, ça se passe bien. Donc pour moi, c'est pas le problème. Pour moi, c'est un faux problème. Par contre, on en parlait off, il y a un vrai problème pour moi de culture. Et là où j'insiste encore, je reviens surtout par rapport au rapport que l'on a avec l'arbitrage, voire même peut-être l'argent.
La discipline.
Il y a un vrai problème de discipline. Ouais. Moi, je l'ai vu, ça fait 30 ans que je suis dans le...
Claude, c'est un peu sociétal.
C'est un tout de discipline, de comportement, de tout.
C'est à partir de... C'est l'école, faisait son travail.
Mais il y a pas que
l'école et les parents.
Les parents aussi.
Bien sûr. Alors, faut pas tout mettre sur le dos de l'école.
Il y a même l'école.
Je suis d'accord avec vous. Je suis enseignant. Je peux vous dire, bon, l'école ne peut pas tout faire, évidemment.
Non.
Mais par rapport à la discipline, moi, pendant que j'écrivais mon livre, j'ai lu un certain nombre de bouquins d'arbitres. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais de sociologues également. Et il y a une journaliste qui disait, en fait, il y a un certain nombre de joueurs. C'est vrai qu'on a un problème de discipline, vous avez raison.
Mais bien sûr.
Il y a un certain nombre de joueurs qui, s'ils n'étaient pas partis, c'est-à-dire qu'ils sont partis à l'extérieur, Benzema, on va citer le premier, s'il n'était pas parti à l'étranger, il y a.
Eric Cantona.
Ribéry. Ouais. S'il n'était pas parti en Allemagne, s'il n'était pas parti en Angleterre, il se serait perdu. C'est comme ça qu'elle le disait. Il se serait perdu en France. Parce qu'on n'arrive pas à. Mettre le cadre en France.
C'est très péjoratif. Sa sociologue, je pense que sa sociologue, elle tire juste vers la gauche.
C'est vrai qu'on a le sentiment, et on l'entend par le témoignage de certains joueurs, que lorsqu'ils sont amenés à partir à l'étranger, tout de suite, on a le sentiment qu'ils redécouvrent une autre discipline.
Bien sûr.
Ah, je suis pas d'accord.
Si, c'est ce qu'ils disent. Alors, c'est eux qui le disent.
0,53, 48,3 000.
La Liga espagnole, si on regarde la Serie A, si on regarde le championnat d'Angleterre, il y a souvent des joueurs qui contestent. C'est pas particulier à la France. Le problème d'arbitrage, c'est pas du tout particulier à la France. Parce que si vous faites les championnats d'Afrique, tous les pays, proportions gardées, je vous assure qu'en France, Yacine, c'est paradis.
Le droit de réponse avant de terminer cette émission de Fouad, l'auditeur. Rapidement, Fouad, il est toujours là. Alors, Fouad.
Certes, en Afrique, il y a un problème avec l'arbitrage. Et des deux côtés, aussi bien du côté des joueurs que du côté des instances du football en Afrique. Il y a le même constat, je pense, en Amérique latine.
Pareil, hein.
Gros problème.
Pareil, hein, bien sûr. L'Amérique latine, l'Amérique du Sud.
Ça gravite trop.
Le football est pourri. En France, et là, je vais englober les tribunes.
Allez.
Et le rapport arbitre-joueur. Il n'y a qu'en France, on trouve ça, je suis désolé.
On va en parler de ça.
Des dégradations de stade. À part, il y a eu des petites exceptions, mais en France, on a eu combien de matchs comme ça cette saison? Pas loin de 10, je pense.
Des matchs
arrêtés, des problèmes.
Merci.
En Allemagne, 0. Ouais. En Angleterre, 0. Et en France, 0. Italie, un petit peu peut-être. J'ai peut-être des souvenirs, lui, à cause de ça. Mais après,
c'est vrai que la France.
Grand championnat. On est
tiré. Merci Fouad de cet appel sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, au 0153483000, un fervent auditeur Fouad, vraiment toujours pertinent. On va continuer justement cette émission pour le dernier sujet.
Time Sport, le mode pressing.
Allez, toujours avec Monsieur Chebli, avec Monsieur Le Personnique et aussi Monsieur Colombiès, l'irrespect des valeurs dans le sport, justement. Peut-être un message à faire passer aussi, des suggestions ou encore, je sais pas, des dires à la Fédé, on en parle. Fouad, l'auditeur nous en parlait. Eh oui, ça arrive qu'en France, peut-être. Ouais. Oui. Alors justement, on s'adresse à qui ? À monsieur Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, non ? Ben, oui, allez-y,
oui,
monsieur.
Ah ben, on va s'adresser donc, à écoutant. Monsieur Le Graët, effectivement. Donc,
et du coup, moi, j'ai eu l'occasion, donc en début d'année, de lui écrire une lettre ouverte, qui malheureusement est restée lettre morte. Voilà, donc j'ai pas eu cette chance d'avoir une réponse de sa part.
Vous êtes sûr que vous avez mis la bonne adresse ?
Oui, j'ai mis la bonne adresse. Je suis passé par tout ce qui est Internet aussi.
Ah ouais.
Je suis passé
même
partout.
Avec l'Internet ?
Même avec l'Internet.
Vous avez eu la confirmation que l'Internet.
Mais ça a marché, Yacine, quand même. Ouais.
Et c'est passé par le web.
C'est ça. Voilà. C'est passé par le web.
Par contre,
un web d'internet.
Juste pour vous dire que effectivement, ce courrier qui était une photocopie de la situation actuelle, mais avec mon passé. Alors, j'ai pas eu ce courage-là d'écrire un livre, mais cette lettre ouverte, elle était écrite un petit peu sur toute ma carrière, puisque moi, j'ai eu la chance d'être joueur, entraîneur et arbitre. Voilà, donc elle pesait des choses. J'ai eu beaucoup de retours. Hier, on a avec Rachid lancé donc un groupe d'arbitres.
C'est ça.
Un groupe
justement.
Donc
qui s'appelle. Pour en devenir arbitre. Peut-être, ben Inch'Allah, une association. Mmh. Pourquoi pas au niveau national.
Voilà, parce qu'effectivement, et on reviendra là dans les propositions de solutions, en tout cas de pistes de solutions, parce qu'on n'a pas non plus cette grandeur d'esprit de se dire voilà, on a toutes les solutions, ça doit être
prétention.
Mais effectivement, en créant des groupes et la parole se libérera sur ce groupe-là, on aura des solutions.
Ça a commencé d'ailleurs, parce que les solutions qu'on va égrener là rapidement, c'est des solutions en fait qui sont remontées de la base. C'est-à-dire que c'est ça qui. Donc, pour revenir à M. Le Graët, il a écrit un courrier avec le président de la Ligue de football amateur, mais ils ont écrit un courrier au président de club. Mais les présidents de club, ils ont déjà la tête sous l'eau, les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus?
Oui.
Nous, on pense que M. Le Graët est le président de la Ligue
football
amateur. Ils se sont trompés de niveau. C'est pas les clubs qu'il fallait viser. C'est pas les présidents de club. C'est les présidents des districts. Parce que je voudrais juste vous donner un chiffre, c'est les violences qu'on a subies là en France depuis le début de la saison, c'est 3/4 des violences en France. Les 3/4 des violences en France ont eu lieu chez nous dans les districts. Donc c'est au niveau des districts qu'il fallait taper entre guillemets.
Bien sûr.
Et donc les propositions que nous avons, qui sont remontées de la base, c'est d'abord protéger les arbitres qui sont seuls, parce que Stéphane et moi on arbitre en D1, et ça veut dire que nous en D1 on est 3. Donc avant de venir s'en prendre à 3 arbitres, les gars ils réfléchissent un peu, voyez. Et donc en D2, D3, D4, D5, même jusqu'à D8, parce qu'il y a des districts où il y a 8 niveaux différents, 8 divisions différentes, et les collègues ils sont tout seuls. Alors quand vous vous retrouvez au fin fond de la cambrousse, ou bien au milieu de barres d'immeubles, je stigmatise personne, sincèrement, on essaye de trouver des solutions, vous voyez, vous vous retrouvez tout seul et donc c'est compliqué.
Ouais.
Première chose. Deuxième chose. Mettre des caméras. On appelle ça des caméras piétons.
Ouais.
Alors, évidemment, pas tous les dimanches et sur tous les terrains, il est évident. Sinon, on va nous dire, attends, mais il vous faut des millions d'euros pour arriver à ça. Non, simplement par district, avoir, par exemple, 3-4 caméras qui tournent d'un terrain à l'autre. Ouais. Et les gars, ils savent qu'ils sont filmés. Donc, il vaut mieux sourire à l'arbitre plutôt que de venir lui faire un coup de boule,
Bien sûr.
Et la dernière chose, et là, je ne vais pas me faire... nous n'allons pas seulement nous faire des amis. Parmi les joueurs, est-ce que c'est normal que ce soit les clubs et donc l'association, c'est-à-dire la subvention, c'est-à-dire les communes, c'est-à-dire nous en fait, parce que l'argent des clubs, des clubs amateurs, il vient d'où ? Il vient de notre argent, c'est-à-dire de nous, les contribuables.
Ouais, les contribuables.
Est-ce que c'est normal que cet argent-là serve à payer des cartons jaunes ou rouges pour contestation ou pour insulte ou pour crachat sur un arbitre ? C'est pas normal. Donc la solution toute simple, et c'est ce que font certains présidents de clubs que je connais, que je salue d'ailleurs.
Ouais.
Et ils font payer les joueurs. Voilà. T'es pas capable de te taire, tu vas chercher le carton dans la poche de l'arbitre, c'est toi qui le payes. Tu craches sur un joueur, tu le payes. Tu insultes l'arbitre, tu payes. Voilà. Par contre, la différence, c'est que un gars qui fait un tacle un peu appuyé, qui prend un jaune ou même parfois un rouge, Et il fait son boulot, entre guillemets. Et là, c'est le club qui paye.
Bien sûr. Réaction avec le coach Tollet. Et on a aussi une auditrice. Voilà, c'est Anna qui nous appelle depuis Paris.
Oui, je, le coach Tollet. Je suis complètement d'accord. Alors, et souvent, j'ai cette réflexion quand je suis sur le terrain. Et je me dis, mais en fin de compte, les joueurs, les joueuses sont tranquilles parce qu'en fait, ce sont les clubs qui payent.
Ouais.
Moi, quand j'étais joueur en régional dans les Yvelines au Chênay, on avait justement dans notre règlement, ça avait été mis en place en tout cas par le coach et son adjoint, c'est-à-dire que lorsqu'on prenait un carton sur une action de jeu, bon voilà, ça fait partie du jeu, etc. Bon là, c'était le club. Par contre, protestation, crachat ou autre, on payait l'amende. Ouais, ah bah bien sûr. Et non, trouvé. Enfin moi, je trouve ça normal. Mmh. Et pourquoi pas le mettre en place. Moi, parce que là, les gars arrivent, ils consomment. Je vois un peu le football d'aujourd'hui, bien ça sûr. Consomme. Ouais, de toute façon, je n'ai rien à faire. Ça se prend pour je ne sais qui.
Ouais.
Si t'arrives à structurer ça au départ, mais après, ça demande aussi au club et surtout au coach de définir cela en début de saison. Les gars qui sont pas d'accord, les joueurs qui ne sont pas d'accord, vous ne signez pas. Point barre. C'est ça. Mais c'est une avancée. Allez. C'est le début de quelque
le
chose.
Le 0153483000 avec Monsieur Colombiès, Monsieur Chebli ou encore Monsieur le Personnic, nos invités ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On a Anna, voilà, qui a composé le numéro du standard. Yannis, c'est bon. Bonsoir Anna.
Bonsoir, c'est de Talisport. Bravo pour ce super tato.
Eh oui. Ah ben merci, Anna.
Et vraiment, et pour ces sujets de choix, bravo, bravo. Alors moi, je voudrais réagir sur la question de l'argent pour le football. Parce que je pense qu'il y a plein de questions sous-jacentes, en fait. Et en réalité, si on parle de... Oui, il y a beaucoup d'argent dans le foot, mais c'est un business. Donc forcément, tant qu'un business tourne, et c'est aussi, c'est aussi l'argent pour lequel vous êtes là, il y a de belles émissions, on joue du spectacle, des beaux joueurs, enfin de bons joueurs courir sur un terrain et marquer des buts, donc forcément il faut de l'argent pour ça, donc oui, et surtout si on compare par exemple la valeur de la Champions League UK par rapport à son PIB, c'est que dalle en fait, on est vraiment à des très très faibles pourcentages, donc si on parle d'argent comme ça, oui c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Je pense que la vraie question c'est aussi comment faire mieux circuler cet argent au sein de tous ces écosystèmes. Croyez-le soi d'un football professionnel, d'un football plus non professionnel. Et voilà, comment cet argent il pourrait mieux circuler, comment on pourrait mieux l'allouer, comment il pourrait être mieux géré.
Ouais.
Parce qu'au final, on ne peut pas empêcher les joueurs de gagner beaucoup d'argent.
Ouais.
En revanche, je pense que la surmédiatisation et cette starification outrance des joueurs n'est pas une bonne chose pour le football. C'est pas nécessaire, on n'a pas besoin d'avoir des joueurs qui font des publicités pour des grosses marques de voitures de luxe ou pour des paris en ligne pour prouver ou pour faire mieux de meilleurs joueurs. Vous voyez, donc en fait, c'est deux poids, deux mesures. Et je pense que voilà, c'est surtout comment mieux faire circuler cet argent, peut-être régler un peu les zones d'ombre parce qu'il y en a, mais au final, ça reste quand même un business. Et c'est pour ça que vous êtes là, vous, aujourd'hui, vous, médias, émission télé, on a tous ces plateformes, ces chaînes de télé. Donc, ça reste quand même un business, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, et pour qu'un business tourne, et pour que le spectateur, le client, entre guillemets, soit satisfait, eh bien, il faut de l'argent, il faut du spectacle. Voilà. Donc, c'est un peu
Je vais juste dire ce que par rapport à ce qu'elle vient de dire Anna. Ouais.
C'est accès business, c'est en tout cas.
En résumé, c'est que tout cet argent, il faut une autorité de régulation.
Ouais.
C'est-à-dire, une fois que l'argent il faut qu'elle ait un œil sur comment cet argent est utilisé. Il faut prendre une certaine partie de cet argent qu'il faut donner aux arbitres, qu'il faut donner au football amateur, qu'il faut donner à tout le monde, avec une certaine éthique et équité. Il faut surveiller.
Ah ouais,
et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est très difficile.
Ouais.
Ça circule
comme avec les marchés financiers. On a l'autorité des marchés financiers. Il faut réguler. Et je pense que c'est ça.
Malheureusement, Anna, aujourd'hui, quand on voit juste l'exemple, quand on parle d'argent, les clubs de football, les politiques de marketing ou de merchandising qui sont mises en place, je vais pas critiquer les grandes écoles.
Ouais.
C'est des gens qui sortent des grandes écoles. Souvent, ce sont des enfants qui sont bien nés. Ils arrivent par piston, à des postes clés.
Ouais.
Et souvent, ils ne connaissent rien du tout au football.
Ouais.
Pour eux, l'essentiel, c'est comment faire gagner le plus d'argent.
On était proche des stades, on est arrivé à Wall Street, là. Ah non, c'est pas bon, là. L'auditrice Anna nous a fait déplacer du côté de Wall Street ou du Nasdaq.
Non, mais franchement. Non, mais il faut replacer les choses dans leur
contexte. Prochaine émission, peut-être on en parlera. Mais oui, Anna, quand même. On le sait bien. J'ai plus trop le temps, moi, justement. Un grand merci à Stéphane.
Merci à vous.
Merci, Anna. Merci à l'auditrice. réalisatrice. Anna, oui, Stéphane, oui, Anna, on en revient rapidement.
Merci.
Rachid et aussi Jean-Pierre.
Merci pour cette remarque. Effectivement, alors l'instance, on l'a, l'instance. L'instance, c'est la fédération, c'est les instances, parce que c'est l'instance de régulation. Il y a la fédération, il y a le gouvernement. On a aujourd'hui un ministère des sports qui est dilué dans un ministère de l'éducation, de la jeunesse et du sport. On n'a même plus un ministère dédié. Donc, comment vous voulez que tout cet argent puisse arriver jusqu'aux arbitres, jusqu'au club amateur.
Ouais. Merci rapidement.
Juste rapidement.
Allez, pour terminer.
150 millions chaque année du football amateur sont donnés à la FFF. 150 millions. C'est beaucoup.
C'est très important.
Ouais, c'est très important. Mais j'ai plus le temps.
On parle de ces arbitres de district et des petites divisions.
Ouais.
Quand on voit les sommes que leur sont allouées pour arbitrer ces matchs, c'est une honte.
Merci,
par rapport aux sommes que touchent les arbitres professionnels.
Ton message est passé, Yacine. Monsieur Chebli, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. De nous avoir invités.
Vraiment, merci à vous.
Je voudrais juste dire, inviter davantage d'arbitres, parce que c'est la grande muette, les arbitres.
Hein.
En France, on interdit la liberté d'expression aux arbitres. Vous avez
nous
la liberté d'expression à la police, mais les arbitres s'expriment très rarement.
Très variablement.
C'est beau, la police, les arbitres, les supporters.
Je suis pas délégué syndical institutionnel.
En tout cas, vous parlez là.
Je ne suis pas porte-parole
d'avoir été avec nous. Allez, on rend l'antenne, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Et on se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.